Il est 8h54 sur France Culture, l'heure de la radiographie du coronavirus. Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
Vous voulez parler de déconfinement, le déconfinement où, quand et comment ?
Eh bien, pas demain matin en tout cas, Guillaume, puisque ce sont les mots
Nicolas.
De notre Premier ministre lundi soir. Le déconfinement, c'est un ensemble de décisions éminemment politiques. La politique, vous le savez, c'est pas vraiment notre champ d'expertise dans cette radiographie du coronavirus. Mais nous voulions ce matin, compte tenu de ce qui est en train de se passer en Chine, en Autriche et même au Danemark, vous expliquer sur quelles données scientifiques peuvent reposer ces décisions politiques de déconfinement. Et c'est évidemment très complexe, hein, puisqu'il n'existe de fait aucune théorie du déconfinement. La situation que nous vivons, tant à l'échelle nationale qu'internationale, est totalement inédite. Elle appelle donc à beaucoup de prudence et à la prise en considération de nombreux facteurs épidémiologiques, virologiques et prophylactiques. La première question est celle de savoir dans quel état de risque se trouve la population à l'issue de plusieurs semaines de confinement. Selon Antoine Flao, qui est professeur de santé publique à l'Université de Genève, que nous avons interrogé, il y a trois situations de risque possibles. Le risque affaibli, c'est une situation qui reposerait en grande partie sur la saisonnalité du virus et le retour des beaux jours, comme c'est le cas pour la grippe qui disparaît complètement du paysage français à partir du mois de mai. Évidemment, si le climat rend le virus moins virulent, voire inopérant, il est très facile de laisser tout le monde sortir de chez soi. Mais comme je vous l'expliquais dans une chronique précédente, cette saisonnalité, pour le moment, reste très très hypothétique. Ce risque affaibli serait aussi la situation si on se rendait compte qu'une très forte partie de la population était immunisée et donc que le taux de personnes peu ou asymptomatiques est dans la marge haute. Si en testant des échantillons représentatifs, on se rend compte que plus de 60% des personnes sont immunisées, là aussi il est très simple de relâcher les mesures de confinement. Mais là encore, c'est assez peu probable que cela se produise puisque les mesures de confinement ont précisément pour but de ralentir la progression du virus dans la population. L'autre situation, c'est l'inverse, le risque élevé. Pas de saisonnalité, le SARS-CoV-2 continue de se propager malgré l'évolution du climat et la population n'a acquis qu'une immunité faible, ce qui complique très nettement la donne. Entre les deux, il y a le risque modéré, une légère diminution du taux de reproduction du virus, le R0 lié au climat, et une immunité collective moyenne, mais pas suffisante pour endiguer l'épidémie. C'est pour l'heure cette situation de risque modéré qui est la plus vraisemblable, Guillaume.
Et oui, et dans cette situation, comment faire alors pour déconfiner 67 millions de personnes, Nicolas ?
Eh bien, la stratégie va reposer là aussi sur plusieurs éléments. Ce qu'il faut préciser et marteler, hein, c'est que pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, on est dans la spéculation totale. Si vous avez entendu le rapport d'un certain cabinet de conseil qui parle de déconfinement pas avant mi-juin, voire fin juillet, c'est un document d'analyse qui n'a pour l'heure aucune forme de valeur ou de réalité, ni scientifique ou politique. Alors il reste en fait encore beaucoup beaucoup trop d'inconnus, comme on vient de le voir. Ce que l'on peut dire pour le moment, c'est que les gouvernants disposent de plusieurs stratégies. L'un des principaux piliers, c'est sans doute la disponibilité de tests sérologiques. Ces tests ne sont pas les mêmes que les tests diagnostiques que l'on fait aujourd'hui, hein, pour savoir si quelqu'un est infecté ou non par le SARS-CoV-2. Les tests sérologiques sont des tests qui repèrent dans le sang la présence d'anticorps spécifiques. S'il y a anticorps, c'est qu'il y a eu infection, symptomatique ou non, et donc que la personne est a priori protégée, et donc qu'elle peut certainement retourner vaquer à ses activités. Je dis a priori parce que le souci avec les tests sérologiques, ce qu'il faut savoir tout de même, c'est qu'ils sont moins fiables que les tests diagnostiques PCR avec les couvillons et qu'il peut y avoir des faux négatifs, comme d'ailleurs pour tous les autres tests sérologiques. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, en date du 7 mars, il n'existe pas encore de tests sérologiques qui soient jugés... Il n'existe pas encore de tests sérologiques qui soient jugés scientifiquement fiables, même si certains laboratoires en ont mis en vente sur des sites internet. L'avantage, en revanche, de ces tests, c'est qu'ils sont très très faciles à réaliser. Il peut s'agir d'une simple petite bandelette que l'on imprègne d'une goutte de sang, si la couleur de la bandelette change, c'est que le test est positif. Voilà, la disponibilité de ces tests sérologiques fiables va évidemment changer la donne dans la répartition et la sélection des populations déconfinées, puisque tout le monde ne sera pas déconfiné en même temps, ça c'est à peu près sûr. Alors il y a plusieurs stratégies possibles, hein, des déconfinements géographiques avec interdiction de sortir ou d'entrer dans une zone, déconfinement par tranche d'âge également, en laissant les populations les plus à risque, les personnes âgées, les personnes avec de fortes comorbidités, possibilité confinée un peu plus longtemps, jusqu'à la réduction du R0, du taux de reproduction de la maladie. Reste l'option du tracking, vous l'évoquiez tout à l'heure, Frédéric Saïs dans sa chronique, c'est-à-dire du suivi des malades et de leurs contacts via la surveillance numérique. Ce tracking pose d'évidents problèmes d'éthique qui, pour le moment, semblent relativement impossibles à résoudre, en tout cas à courte échéance. Ce qui est certain, c'est que déconfinement ne signifie pas retour à la vie normale. Des mesures de distanciation sociale vont être maintenues pendant de longues semaines et il est également possible qu'en cas de retour de vague épidémique, d'une deuxième vague, les mesures de confinement soient réinstaurées pour quelques semaines. C'est une autre stratégie, celle du stop and go, et c'est a priori cette stratégie que le gouvernement souhaiterait pour le moment à tout prix éviter.
Merci beaucoup Nicolas Martin pour cette radiographie du coronavirus.